mystères de l'Église avec Monseigneur Marc Haillet.
Voilà, après ces longues catéchèses sur la nouvelle traduction du missel romain qui nous a permis de revisiter la liturgie de l'Eucharistie et d'approfondir sans doute le sens et la signification profonde dans la vie chrétienne de la participation à la messe, hein, que nous voulons toujours plus active, consciente et fructueuse selon le souhait émis par le Concile Vatican II dans sa constitution Sacrosanctum Concilium sur la divine liturgie. Nous avons eu l'occasion de dire combien l'Eucharistie, et c'est un leitmotiv pourrait-on dire de l'enseignement du dernier concile, c'est vraiment le sommet et la source de la vie et de la mission de l'Église. Donc il y a un lien évident et très étroit entre l'Eucharistie et l'Église. Et c'est pourquoi il me semble tout à fait pertinent de consacrer de nouvelles catéchèses à ce grand mystère de l'Église, qui a été, comme on le sait, l'objet principal, central en tout cas, de l'enseignement du Concile Vatican II. À près de 60 ans de distance de l'ouverture du Concile, il me semble très important de revenir sur ce grand mystère de l'Église. Comme nous avons parlé du mystère de l'Eucharistie, nous pouvons parler en effet du mystère de l'Église. Il me semble que c'est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui on parle beaucoup, peut-être parfois à l'occasion de cette grande consultation du peuple de Dieu sur le thème du synode des évêques de 2023 qui est consacré au thème de l'Église synodale, de la synodalité dans l'Église. On parle beaucoup du fonctionnement de l'Église. On émet un certain nombre de rêves sur l'Église que nous voudrions, à partir de ce que nous souffrons parfois même de l'Église. On parle de réforme de l'Église. Certains même osent ce genre d'expression « reconstruire l'Église » ou « réparer l'Église ». Avec la difficulté ou peut-être l'ambiguïté que l'on pressent immédiatement dans ces expressions qui risquent de réduire l'Église à une organisation et peut-être même à une association qui vient des hommes et qui est donc toujours à réformer parce que les hommes sont pécheurs et en ce sens c'est vrai que l'Église est toujours à réformer à travers la conversion personnelle de chacun au Christ dont l'Église est appelée être, comme on le dira, le corps, le signe, le sacrement dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi il me semble très important dans ce climat que l'on pourrait dire un peu de confusion, de revenir à l'essentiel de ce qu'est l'Église. Ça n'est pas pour rien que le Concile Vatican II a pris, encore une fois, comme objet central de ses travaux et de sa réflexion, ce grand thème de l'Église qui a été décliné sous toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions. À partir d'une grande constitution dogmatique, qui est, même si elle était promulguée seulement à la troisième session du Concile, c'est-à-dire en 1964, est quand même le document, on pourrait dire, premier source de l'ensemble des documents du Concile, donc qui est même dans l'ordre des documents du Concile, arrive en tête. Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur le mystère de l'Église. Et c'est important de se rappeler en effet que l'Église, avant d'être une organisation humaine, avant de rassembler des hommes, ce qu'elle a pour vocation à faire, est d'abord un mystère qui vient de Dieu. Et pour introduire ce propos sur l'Église, je voudrais relire un passage que nous lisons dans la liturgie, en particulier au cours du temps pascal, qui est un passage de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, où saint Jean a une vision, celle de l'Église qu'il appelle la Cité Sainte ou la Jérusalem Céleste, car elle est l'anticipation, en effet, sur la terre, comme on le verra à l'envi, du royaume des cieux. Je cite ce passage que nous lisons dans la liturgie et qui peut en effet bien orienter notre propos. Chapitre 21 de l'Apocalypse, saint Jean commence en disant « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Au verset 10, saint Jean continue en disant « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Et si nous allons maintenant au verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Vous voyez, c'est très important ce texte parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais il nous indique que l'Église est d'abord un dessein de Dieu. L'Église est d'abord une réalité qui vient de Dieu, d'où cette vision de Jean qui la voit descendre du ciel d'auprès de Dieu et qui est appelée à être la demeure de Dieu parmi les hommes. Et où nous voyons qu'il y a avec l'Église des termes qui vont ensemble. C'est la ville sainte, c'est la Jérusalem céleste, c'est une épouse pour l'époux qui est l'agneau. Il n'y a pas de sanctuaire, c'est Dieu lui-même qui est son sanctuaire, et il n'y a pas et le culte qui est rendu à travers l'agneau. L'agneau, c'est le Christ, mort et ressuscité, qui tient lieu de temple, et qui tient lieu aussi de luminaire. Nous n'avons plus besoin de lumière naturelle pour nous éclairer, mais notre flambeau, notre luminaire, c'est l'agneau. Vous voyez, ce texte introduit bien tout notre propos sur le mystère de l'Église.